Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus jusqu'ici pour cette soirée qui promet d'être passionnante, puisque Julie Casteg me disait à l'instant qu'elle va nous présenter ce soir le résultat d'une synthèse après des années de travail sur des textes. Et pour la première fois, elle fait ce travail, après ces années de lecture, de synthétiser sa pensée, de la mettre en relation avec des questions contemporaines, notamment liées aux enjeux écologiques et aux pensées qui s'y raccrochent. Voilà, donc merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes maître de conférence en philosophie antique et médiévale à l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Vous êtes membre du laboratoire d'études sur les monothéismes ainsi que de l'Institut universitaire de France. Et vous allez de temps en temps en Allemagne pour vos recherches. Alors, parmi vos publications, je cite « Seul le juste connaît la justice, connaissance et vérité chez Maître Eckhart », qui est paru chez Vrin en 2006, et puis deux ouvrages collectifs que vous avez dirigés. Un premier qui est « Au-delà du sujet, l'impersonnel », c'est avec les archives de philosophie, puis un autre « Maître Eckhart au cerf ». Voilà. Et puis la conférence de ce soir que vous allez nous proposer s'intitule « Identité et intériorité réciproques, éléments pour une archéologie médiévale ». Voilà, nous vous écoutons et merci d'avance pour ce que vous allez nous dire.
Merci. Vous m'entendez là? Là, c'est bien? Sinon, vous m'arrêtez. En 1991, Michel Serres ouvre le contrat naturel par une description du duel au Gourdin, de Goya, autrement intitulé la rixe. Pendant que les géants sont absorbés dans la confrontation violente de leurs identités ennemies, ils s'enfoncent dans les sables mouvants. À chaque mouvement, un trou visqueux les avale, de sorte qu'ils s'enterrent ensemble graduellement, écrit Michel Serres. Ce trou, c'est la découverte avec Hiroshima, le 6 août 1945, de la possibilité, sous l'effet des guerres humaines, de l'extinction totale de l'espèce humaine et de la destruction de son environnement écologique. S'ouvre alors une ère nouvelle, un défi pour la philosophie. Ce qui est en cause est la conception de la relation entre les hommes et leur environnement, selon le modèle contenu-contenant. Il s'agit d'interroger la conception substantialiste qui délimite des identités individuelles ou collectives, distinctes les unes des autres par leurs propriétés respectives. L'urgence consiste à changer d'échelle pour considérer la question de notre identité dans le cadre de ce que Michel Serres nomme les interrelations réciproques et croisées avec les différents étants humains et non humains qui constituent la biosphère. Michel Serres en appelle à l'élaboration urgente d'une constitution juridique, d'une éthique, d'une politique, d'une épistémologie, d'une métaphysique nouvelle, adaptée à ce qu'il nomme des objets-mondes. Un objet-monde est, selon sa définition, un artefact dont l'une des dimensions au moins, temps, espace, vitesse, énergie, atteint l'échelle du globe. Les objets-mondes impliquent de penser les différents domaines pratiques et théoriques cités du droit à la métaphysique à partir d'un changement d'échelle. Depuis Nagasaki et Hiroshima, il fallait déjà changer de philosophie, écrit Michel Serres, car nous sommes désormais confrontés à des objets-mondes. Ceci exige une révolution, un retournement, un changement de dimension dans notre réflexion philosophique. Ce diagnostic est partagé par Timothy Morton, qui décrit ce qu'il appelle des hyper-objets par quatre caractéristiques. Par leur viscosité, ils nous collent à la peau et remettent en question les limites de l'identité. Par leur non-localité et par leur ondulation temporelle, ils dépassent nos catégories et les formes a priori de notre sensibilité, de telle sorte qu'ils ne soient plus perceptibles pour nous. Conséquence de ces deuxième et troisième aspects, ils ne sont pas perceptibles par nos facultés. Cette imperceptibilité forme le quatrième aspect et est appelée « phasing ». Enfin, leurs relations sont interobjectives. Leur espace est composé d'interactions ou d'actions réciproques, entre leurs propriétés. Ils mettent ainsi en question les relations de causalité par lesquelles nous constituons nos savoirs scientifiques. Au-delà même des descriptions proposées par Michel Serres et Timothy Morton, il me semble que la première caractéristique majeure de ces objets-mondes ou hyper-objets est d'excéder les catégories de notre perception et de notre entendement. Cet excès ne se limite pas, à mes yeux, à ce que Michel Serres appelle l'échelle du globe. Cet excès outrepasse les dimensions de l'écologie. Il déborde structurellement ce qui peut être dimensionné, mesuré, constitué par l'entendement humain. Si l'écologie permet de poser le problème du changement d'échelle, celui-ci ne s'y réduit pas pour autant. Le travail philosophique consiste à penser, dans tous les domaines cités, un cadre conceptuel susceptible d'intégrer ce qui, par définition, les dépasse. La seconde caractéristique principale de ces objets-mondes ou hyper-objets consiste à remettre en cause les relations physiques impliquées par notre conception de l'espace et du temps. L'identité est circonscrite par le fait que deux entités ne sauraient être simultanément dans le même lieu sans être identiques l'une à l'autre. Les hyper-objets sont en nous et nous sommes simultanément en eux. Cette seconde caractéristique fournit le point de départ de ma réflexion. Michel Serres tente de fonder un contrat naturel entre les humains et les non-humains afin de nous garder tous de la violence objective que nos guerres subjectives réglées par le droit exercent à l'échelle du monde sur ses habitants humains et non-humains. Mon hypothèse est qu'un nouveau cadre juridique, une nouvelle éthique, ne tiendrait lieu que de barrages contre le Pacifique si nous ne les fondons sur une métaphysique qui tienne compte des relations d'intériorité réciproques qui nous lient avec les hyper-objets. Il ne faut pas attendre des maîtres médiévaux qu'ils donnent une réponse directe à la question du réchauffement climatique, mais ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce que Michel Serres appelle les objets-mondes et Timothy Morton les hyper-objets. L'exégèse et la théologie médiévale, qui s'appuient sur l'évangile de Jean notamment, me semblent particulièrement en mesure de proposer des modèles qui présentent les deux caractéristiques des hyper-objets. Les personnes divines du Père et du Fils ne sont pas stricto sensu des hyper-objets, parce qu'elles ne sont pas des objets. Cependant, elles partagent avec les hyper-objets ces deux caractéristiques. C'est seulement de ce point de vue que nous envisagerons un transfert du domaine de la pensée écologique à la pensée médiévale. D'une part, les personnes divines du Père et du Fils excèdent par définition les limites des catégories humaines. D'autre part, elles sont dites être l'une dans l'autre réciproquement. De plus, ces modèles considèrent ce qui posséderait les caractéristiques d'hyper-objets divins comme des entités personnelles. Ils se distinguent ainsi des hypostases de la métaphysique néoplatonicienne, par exemple, qui sont également susceptibles de relations d'intériorité réciproque. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur une seule de leurs propriétés, leur intériorité réciproque, et circonscrirons notre corpus au texte exégétique d'Albert Legrand, mentionnant l'intériorité réciproque des personnes divines dans l'Évangile de Jean. De ce point de vue, le Moyen-Âge m'apparaît particulièrement bien placé pour offrir des paradigmes métaphysiques dont il nous soit possible de nous inspirer en les adaptant pour répondre à cette urgence métaphysique. Du point de vue des enjeux, les modèles inspirés du johannisme sont en mesure, d'un côté, de parer au danger du réductionnisme matérialiste, à ce qui ne serait plus qu'un ensemble d'objets concevables en termes quantitatifs. De l'autre, c'est le cas de Timothy Morton par exemple, de l'autre, il s'avère en mesure d'élargir à des dimensions suprahumaines ce que la notion de personne a conquis sur le plan du respect et du droit. Il propose enfin des procédures de vérification rationnelle de leur discours pour se garder du danger rencontré par l'effroi que peuvent causer les catastrophes écologiques de la fuite dans l'irrationnel. J'explorerai en particulier la capacité des modèles johanniques à se confronter à des modèles épistémologiques et métaphysiques issus des sciences et philosophies gréco-arabes. Je montrerai les synthèses nouvelles ainsi élaborées pour interpréter les textes gréco-arabes et en retour pour comprendre les écritures saintes de leur propre tradition. Cependant, la visée propre de mon enquête ici n'est pas d'approfondir tous les effets d'interprétation réciproque de l'évangile de Jean et des sciences gréco-arabes dans le monde médiéval latin, je l'ai fait ailleurs. Je cherche principalement aujourd'hui à dégager, à partir des textes exégétiques médiévaux, des paradigmes métaphysiques pour penser la question de l'identité à l'ère des changements d'échelle auxquels nous invite la pensée écologique. Il s'agit donc de construire une conception dynamique de l'unité en s'intéressant particulièrement à l'une de ses propriétés, l'intériorité réciproque, en d'autres termes, comment penser une unité dont les termes A et B sont simultanément l'un dans l'autre, A dans B et en même temps B dans A. Du point de vue de la méthode que j'adopterai, je tenterai d'éclairer les enjeux de la pensée écologique esquissés en introduction à partir d'une approche archéologique, en explorant quelques paradigmes médiévaux de la conception de l'identité dans la perspective des relations d'intériorité réciproque. Mon approche méthodologique de la philosophie médiévale consiste à montrer qu'il s'agit d'un phénomène complexe qui se décline au pluriel et qui repose sur la pratique du commentaire de certains corpora de textes par lesquels la philosophie est elle-même à son tour transformée. Les philosophes médiévaux sont en effet confrontés à l'altérité de textes venus de traditions culturelles, sociopolitiques, religieuses, d'aires géographiques, de langues différentes, grecques, latines, hébraïques, arabes, et à la diversité des sciences qui permettent de penser tous les aspects de la réalité, cosmique, physique, nous allons le voir, logique, psychique aussi, politique également, éthique, juridique. Je souhaite faire apparaître combien notre culture s'est constituée au Moyen-Âge à partir de cet entrelac de traditions. Les maîtres médiévaux interprètent des textes exogènes à leur contexte de pensée immédiat, se les approprient, sont ainsi conduits à modifier la compréhension des textes qui forment le soubassement même de leur propre culture. Ici, l'évangile de Jean. C'est à partir de savoirs exogènes aux écritures saintes et aux commentaires patristiques qu'ils s'approprient philosophiquement et théologiquement la spécificité d'une relation d'être l'un dans l'autre réciproquement. Celle-ci déjoue la catégorie aristotélicienne du lieu. Elle invite à penser comme une totalité dynamique, l'ensemble formé par deux identités, d'abord posées comme différentes. Elle interroge la notion de production, ou plus précisément d'engendrement, puisqu'il s'agit dans l'évangile de Jean de l'être du Père dans le Fils et du Fils dans le Père. La conception renouvelée des notions de lieu, de totalité et de production constituera notre feuille de route. En conclusion, je tirerai du récit des modèles médiévaux, tels que je les aurai agencés, un bilan des outils conceptuels qu'ils peuvent nous apporter et des champs qui demeurent à explorer. À plusieurs reprises, l'évangile de Jean met dans la bouche de Yeshua de Nazareth les paroles qui énoncent que lui-même, qui s'identifie au Fils, est dans le Père et que le Père est en lui. Que signifie, pour la compréhension de ce qu'est une personne, que deux personnes soient l'une dans l'autre simultanément et réciproquement? Plus fondamentalement encore, du point de vue ontologique, que signifie pour la compréhension de deux entités qu'elles soient l'une dans l'autre simultanément et réciproquement? Ce mode de relation ne caractérise pas en général les substances, c'est-à-dire les fonctions qui constituent le soubassement de toutes les propriétés attribuées à un individu, ainsi que leur principe d'individualité. L'évangile de Jean nous invite à remettre en question ce modèle ontologique d'origine aristotélicienne. Être l'un dans l'autre réciproquement ne correspond à aucun des modes de relation que nous entendons communément, selon Aristote, lorsque nous employons la préposition « dans ». Dans le quatrième livre de la physique, le Stagirite expose 8 modes de relation pour décrire les manières dont quelque chose est dans quelque chose d'autre. Auquel d'entre ces modes ressortirait la relation d'intériorité réciproque qui unit les personnes divines du Père et du Fils? Selon le premier et le deuxième de ces modes, la partie est dans le tout, à la manière des doigts dans la main, ou l'inverse, c'est-à-dire comme le tout dans ses parties. Le Père ne saurait être dans le Fils, selon ce mode. Autrement dit, une personne ne saurait être réduite à être la partie constitutive de l'autre et réciproquement. Une personne ne saurait constituer le tout de celle dans laquelle elle se trouve, lui donnant ainsi sa consistance et son unité. Le congé que donne Albert à la notion de totalité pour penser l'inhérence réciproque des personnes écarte le paradigme de la totalité formée par l'actif et le passif, par l'engendrant et l'engendré. Selon le troisième et le quatrième mode, l'espèce est dans le genre, à l'instar de l'homme dans l'animal ou inversement, comme le genre dans l'espèce. Ce n'est pas selon ce mode que le Père est dans le Fils. Autrement dit, l'inhérence réciproque des personnes ne ressortit pas à la totalité intelligible. Elle n'est pas du seul ressort de l'intellect. Le Père n'est pas, pour le Fils, l'essence prise dans sa généralité, c'est-à-dire encore indéterminée, que le Fils spécifierait. Et le Père ne se trouve pas dans le Fils comme dans ce qui le manifeste, en le spécifiant, à mesure qu'il le détermine. L'engendrement du Fils par le Père ne se laisse pas reconduire à une dérivation logique sur l'arbre de Porphyre. L'inhérence du Père et du Fils n'est pas adéquatement pensée dans le cadre d'une logique des ensembles. Selon le cinquième mode, la forme est dans la matière, à l'instar de la santé dans ce qui est chaud et dans ce qui est froid. Le Père n'est pas dans le Fils de cette manière. L'inhérence réciproque des personnes divines ne se laisse pas adéquatement concevoir selon le modèle du devenir physique. Le Fils n'est pas dans le Père comme la forme dans la matière qu'il déterminerait. Il ne fait pas passer la puissance du Père à l'acte, ne lui donne pas forme comme si le Père devenait à travers son Fils. Le Père n'est pas la cause du Fils. L'immanence des personnes n'appartient pas à la logique du devenir, c'est-à-dire du passage de la puissance à l'acte et à la causalité qu'elle implique. Selon le sixième mode, quelque chose est dans le premier moteur, à l'instar des affaires des Grecs dans le roi. Ce n'est pas non plus selon ce mode que le Père est dans le Fils, ou plutôt le Fils dans le Père. Autrement dit, l'être du Fils dans le Père n'est pas non plus d'ordre politique, au sens d'une organisation réglée. Le Fils n'est pas dans ce qui le dirige comme en un premier moteur. Les personnes ne constituent pas des totalités politiques ou cosmiques hiérarchiquement orientées vers la première d'entre elles, qui détiendrait l'autorité et la capacité de mouvoir l'ensemble. L'intériorité réciproque du Père et du Fils remet en cause la théorie aristotélicienne du mouvement, et notamment le point fixe initial qu'elle suppose comme arché. Selon le septième mode, quelque chose est dans la cause finale, c'est-à-dire le bien, grâce auquel les autres choses sont et deviennent. Ce n'est pas ainsi que les personnes divines sont l'une dans l'autre. Les personnes divines ne constituent pas une totalité orientée vers une fin que représenterait l'une d'entre elles. L'une n'est pas le bien ou l'accomplissement des autres qui sont en elle. L'une de ces personnes ne saurait être pour les autres ce qui les fait être et devenir au sens de ce qui oriente leur désir, c'est-à-dire leur cause finale. L'intériorité réciproque du Père et du Fils remet fondamentalement en cause la notion d'entéléchie et plus généralement la présupposition d'une orientation téléologique. Enfin, selon le huitième mode, le Père ne saurait être dans le Fils comme dans un lieu qui le contiendrait à la manière d'un vase. De l'examen des manières de dire qui concernent les étants sensibles dans la physique d'Aristote, Albert conclut dans son commentaire du premier livre des sentences de Pierre Lombard qu'au sens propre, aucune d'entre elles ne s'applique à la relation d'être l'un dans l'autre réciproquement qui caractérise les personnes divines. L'être dans réciproque du Père et du Fils ne se décline donc ni selon les catégories du tout et de sa partie, ni selon le genre et l'espèce, ni selon la forme et la matière, ni selon le premier moteur et ses effets, ni selon la cause finale et ses effets, ni selon le lieu et ce qu'il contient. L'alternative est par conséquent la suivante. Soit ces expressions scripturaires concernant l'intériorité réciproque propre aux personnes divines sont logiquement inacceptables, soit elles ne sauraient être comprises selon l'expérience que nous avons de l'être dans réciproque des phénomènes naturels qu'étudie la physique. Elles requièrent pour leur part un autre mode d'intellection. Dans son commentaire du verset Jean 14, 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Albert traite de l'inhérence réciproque des personnes divines à partir de la question aristotélicienne du lieu. Selon la physique d'Aristote, il est impossible que deux entités soient simultanément dans le même lieu sans être ipso facto identiques, nous l'avons dit. Dans son commentaire du quatrième livre de la métaphysique, Albert paraphrase Aristote pour démontrer, au moyen de l'exemple du vin et de l'amphore qui le contient, l'impossibilité pour quoi que ce soit d'être en soi-même au sens premier de la préposition « dans ». Celle-ci signifie en effet le lieu ou ce qui contient quelque chose comme en un vase. Aristote a déjà éliminé les autres significations de la préposition « dans » qui empêche quelque chose d'être en soi-même. La raison de cette impossibilité est que l'inhérence de quelque chose dans une autre implique leur identité et par conséquent la destruction de la relation des entités initialement distinctes. Être dans l'autre comme en soi-même apparaît donc à la fois comme une impossibilité logique et ontologique. Examinons l'exemple aristotélicien du vin et de l'amphore. Si être dans un autre comme en soi-même était possible, alors cela impliquerait soit que le vin soit identique à l'amphore dans laquelle il se trouve, soit qu'il forme avec elle une nouvelle entité, vin-amphore, à laquelle le vin et l'amphore s'identifieraient désormais. Ainsi, la relation de capacité de mesure de l'amphore par rapport au vin disparaîtrait-elle. Le vin ne serait plus dans l'amphore comme en un vase, mais dans l'amphore en tant qu'elle est considérée comme identique à lui. Par conséquent, la proposition « le vin est dans l'amphore » deviendrait « le vin est dans le vin » ou « le vin est dans le vin amphore ». Elle sonnerait ainsi comme une simple proposition d'identité, sans les connotations de lieu, de capacité et de mesure impliquées par la préposition « dans ». Maître Albert en conclut qu'il est impossible qu'une entité soit dans l'autre comme en elle-même sans détruire la relation de ce qui contient et de ce qui est contenu, et par conséquent la différence entre les deux entités. Si, selon le Stagirite, le vin ne peut pas être dans l'amphore comme en soi-même, pourtant, selon le verset Jean 14, 10, le Père est dans le Fils et le Fils réciproquement dans le Père. D'après la conception aristotélicienne, le Fils, en étant dans le Père, serait dans le même lieu que ce dernier et par suite lui serait identique. Or, selon Albert, s'il est vrai que le Père et le Fils ont même nature, ils sont en tant que personnes distinctes. Ce qu'il faut à tout prix éviter est, aux yeux du dominicain Rénan, que le Fils, étant dans le Père, se donne à lui-même sa propre nature. Au danger venu du philosophe s'ajoute la menace hérétique. Certains, comme le libellus d'Abbas Joachim, condamné au concile de Latran IV, affirment que le même engendre le même. Pour parer à ce double risque, le docteur universel consent donc à infléchir l'engendrement du Fils par le Père en communication de la nature divine sur le mode du flux. Il use du néoplatonisme comme arme contre l'hérésie. Il faut, contre le stagirite, défendre la distinction des personnes dans un même lieu et contre l'hérétique, l'impossibilité de s'engendrer soi-même. La théorie néoplatonicienne du flux lui apparaît comme le glaive à double tranchant adéquat à ce combat sur deux fronts. Nous allons progressivement découvrir pourquoi et quels en sont les enjeux. Donc, les personnes divines ne sont pas l'une dans l'autre comme le lieu et ce qu'il contient, sinon elles seraient identiques l'une à l'autre. Il s'avère qu'au sens propre, il n'est possible de désigner la relation d'être dans réciproque, caractéristique des personnes divines, ni sous la catégorie du lieu, ni sous celle de la cause et de l'effet, ni sous celle de la forme et de la matière. Deuxième moment, mode d'union et de totalité. L'être l'un dans l'autre réciproquement des personnes divines déjoue nos catégories de l'être, de la pensée et du langage, telles que celles du lieu. Il indique qu'il est possible que deux entités soient l'une dans l'autre simultanément sans pour autant perdre leur identité propre et leur distinction. Or, il s'avère impossible de concevoir l'intériorité réciproque à partir de l'expérience que nous avons du lieu dans lequel sont situés les étangs physiques. L'unité du vin et de l'amphore ne permet plus de maintenir la distinction nécessaire pour penser qu'ils sont l'un dans l'autre réciproquement. Nous pouvons concevoir l'unité de la nouvelle entité qu'ils forment et ne les saisissons plus alors dans leur altérité. Que cette propriété soit attribuée aux personnes divines par l'évangile de Jean indique qu'elle est peut-être une structure universelle. Il nous faut donc, selon Joachimisme, il nous faut donc continuer à chercher des modèles d'union constitués par une totalité à partir desquels penser cette intériorité réciproque structurelle. À la suite de Pierre Lombard, de Grégoire le Grand, d'Hilaire de Poitiers et d'Augustin, Albert remarque que l'âme humaine présente, du point de vue de l'intériorité réciproque, une structure analogue aux personnes de la Trinité. Ses facultés, à savoir la mémoire, l'intelligence et la volonté, sont l'une dans l'autre réciproquement. Une telle conception n'est pas étrangère au Moyen-Âge. Les pères de l'Église, grecs et latins, ont proposé le modèle de la périchoresis ou de la circoncession pour penser l'homologie psychothéologique de l'âme et de ses facultés, avec les personnes divines, telles qu'elles sont décrites par l'évangile de Jean. Quel mode d'union et quel mode de totalité constituent-elles? Le mode d'union que forme l'âme avec ses facultés et les personnes trinitaires, entre elles, apparaît irréductible au mode d'union qu'étudie la physique aristotélicienne, à savoir l'agrégat et le mélange. Dans le Degenerationnet et Corruptionnet, Aristote présente un premier mode, celui de l'agrégat de blé et de froment. Celui-ci désigne un assemblage d'éléments hétérogènes sans mélange de leurs substances respectives. Autrement dit, dans l'agrégat, les éléments constitutifs existent de manière extérieure les uns aux autres, sans modification de leur substance initiale, comme partes extra partes. Il ne saurait par conséquent y avoir d'intériorité réciproque dans l'agrégat. Le second mode, le mélange, par exemple d'eau et de vin, suppose quant à lui la production d'une troisième substance, à partir de deux autres qui se mêlent l'une à l'autre. Dans le mélange, les éléments initiaux existent en effet sur le mode du mélangé et non plus sur celui de leur substance initiale. Celle-ci a été modifiée. Les éléments initiaux ont perdu leurs propriétés respectives, l'eau et le vin, ont perdu leur goût. Ils ne sauraient être dits l'un dans l'autre réciproquement dans la mesure où ils ne coïncident plus avec leur identité initiale et forment désormais une troisième substance. Pour penser l'union des facultés de l'âme et des personnes divines, l'agrégat, le mélange aristotélicien ne sont pas adéquats. C'est pourquoi Albert a recours à la notion de tout potestatif développée par Boèce dans son De Divisione. Le tout potestatif se distingue en premier lieu du tout intégral, celui de la ligne ou en général de ce qui est continu. Il ne constitue pas une totalité selon la quantité. Le tout potestatif se distingue en deuxième lieu du tout non continu dans lequel les parties sont ordonnées à un premier, le pasteur pour le troupeau, le chef pour le peuple ou pour l'armée. Le tout potestatif se distingue en troisième lieu du tout universel, celui que forment les catégories de cheval ou d'homme pour l'ensemble des individus qu'elles comprennent. Il ne ressortit pas à la totalité intelligible. Ce qui caractérise le tout potestatif pour sa part est d'être constitué à partir de ses propres puissances. Albert développe deux propriétés principales pour le tout potestatif qu'est l'âme. La première concerne l'ordre de la procession des facultés à partir du principe et la relation d'inclusion qui s'ensuit. Du tout qu'est l'âme, en tant que principe de vie et de mouvement, fluit en effet les puissances de croître, de sentir et d'intelliger. La première, la puissance végétative, est incluse dans la médiane, à savoir la sensitive, et ces deux dans la dernière, l'intellective. De la même manière, dans la perspective du processus de construction des figures géométriques, le triangle est inclus dans le tétragone. La seconde propriété du tout potestatif qu'est l'âme est relative au pouvoir d'agir respectif des facultés. Tout ce que peut la puissance inférieure, la végétative, la puissance supérieure, l'intellective, le peut de manière excellente et éminente. Mais Albert affirme que cette relation n'est pas convertible, au sens logique, c'est-à-dire que la relation ne s'inverse pas. Le tout potestatif forme donc une totalité hiérarchique. Elle se distingue de la hiérarchie constituée par le tout non continu, celui du pasteur et de son troupeau, en ce qu'elle est organisée à partir de puissances d'agir. Celles-ci sont incluses les unes dans les autres, au sens où le pouvoir d'agir des facultés inférieures s'accomplit sur un mode éminent dans les supérieurs. Cependant, l'inclusion n'est pas réciproque. A est dans B, qui est dans C, qui concentre tout le pouvoir d'agir qu'il reçoit de A et B et qu'il détermine, en outre, sur son mode propre. Mais cela ne vaut pas inversement. Albert confère à ce modèle une fonction paradigmatique qui lui permet d'interpréter, à partir d'une homologie structurelle, différents champs théoriques. Ainsi, ce qui vaut pour l'âme en tant que tout potestatif vaut, aux yeux d'Albert, également pour le tout politique. Le tout potestatif est, dit-il, un royaume constitué par les différents degrés de puissance, duché, préfecture, présidence. Dans l'ordre ecclésial, ces différents degrés sont représentés par le sous-diacre, le diacre et le prêtre. Dans l'ordre militaire, ils correspondent au décanus, au centurio et au tétrarca. Grâce à la fonction de paradigme logique qu'il confère au tout potestatif, Albert opère des glissements d'un registre de la réalité à l'autre, mais il ne permet pas de penser précisément la réciprocité des puissances supérieures et inférieures qui sont incluses l'une dans l'autre. Les puissances considérées présentent bien une relation d'inclusion, mais pas de réciprocité. Le tout potestatif, s'il correspond à l'organisation des facultés de l'âme, ne saurait par conséquent constituer un modèle pour l'intériorité réciproque des personnes divines. Albert va trouver un modèle de réciprocité dans l'être dans des premiers principes universels de la métaphysique néoplatonicienne, tels que les présente le Liber de Chaosis. Celui-ci est la traduction anonyme achevée à Tolède dans la seconde moitié du XIIe siècle de certaines propositions des éléments théologiques de Proclos et du livre du bien pur. Ce dernier serait lui-même une traduction paraphrastique réalisée dans le milieu bagdadien du philosophe arabe Al-Kindi vers le milieu du IXe siècle. Le Liber de Chaosis a été reçu dans le monde latin dans la première moitié du XIIIe siècle. À la fin de la onzième proposition, le Liber de Chaosis donne un exemple qui décrit, selon la traduction latine, la manière dont la cause, res agens, et dans son effet sur le mode de l'effet qui la reçoit. Dans l'exemple, le traité anonyme traite des facultés de l'âme ainsi que des premiers principes métaphysiques et cosmologiques, en particulier de l'intelligence et de l'être. Selon la théorie de l'identité développée dans le Liber de Chaosis, les premiers principes métaphysiques, l'être, la vie, l'intelligence, qui sont des substances, ne sont pas seulement définis par ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais aussi par ce qu'ils sont dans leur cause et par ce qu'ils sont dans leurs effets. L'être est dans la vie, et réciproquement. La vie est dans l'intelligence, et réciproquement. L'intelligence est dans l'être, et réciproquement. De même en va-t-il, selon le Liber de Chaosis, de l'âme et de ses facultés végétatives, sensitives et intellectives. L'exemple donné dans la proposition 11 énumère graduellement comment une puissance de l'âme est dans l'âme tout entière, puis comment l'âme est dans l'intelligence, on passe aux premières causes universelles, du niveau de l'âme aux premières causes universelles. L'intelligence dans l'être, en tant que principe supérieur, immédiatement sous la première cause, qui est elle-même inconnaissable et ineffable. Contrairement aux relations non réciproques entre les parties du totum potestativum, la caractéristique de cette description est la réciprocité de l'immanence de la cause dans son effet, dans le mouvement ascendant et de l'effet dans la cause, dans le mouvement descendant. Comment comprendre res agens, de sorte que les sens soient dans l'âme sur un mode animé et réciproquement l'âme dans les sens sur un mode sensible. Afin de tenir compte de cette immanence réciproque, la stratégie albertienne, c'est un problème qui se trouve à la fois dans le texte latin et dans le texte arabe. La stratégie albertienne consiste à faire varier les significations de cause. Les sens sont en effet dans l'âme sur le mode animé, propre à l'âme, dans la mesure où ils déterminent et accomplissent l'âme par une sensation en acte. Réciproquement, en tant que substrat qui reçoit cette détermination, l'âme confère son propre mode au sens. Ainsi, les sens et l'âme sont simultanément causes les uns des autres, mais selon une signification différente. Les sens qui viennent après, postérieurs, après l'âme, sont appelés causes au sens où ils déterminent formellement l'âme et l'accomplissent. L'âme qui précède les sens, donc position antérieure, est cause du substrat dans lequel ce qui vient après, c'est-à-dire les sens, inerre sur un mode incoatif, autrement dit, sur un mode encore indéterminé. En transférant l'exemple tiré du Liber de Chaosis aux facultés de l'âme, chacune est dans l'autre selon un rang relatif, antérieur, médian et postérieur. L'ordre relatif des puissances à l'intérieur de l'âme est la condition de la réciprocité de leur relation. La faculté végétative de l'âme est dans le mode, sensitif et dans les sens sur un mode sensitif. Et est dans la puissance intellective sur un mode intellectif. En d'autres termes, ce qui est antérieur dans le développement de l'âme en tant que tout potestatif est déterminé, interprété à la manière du Liber de Chaosis, est déterminé en tant que sensation dans les sens et en tant qu'intellection dans l'intellect, selon un processus intégratif par lequel l'âme développe son activité. À la fois les sens et l'intellect résident dans la faculté végétative de l'âme sur un mode encore indéterminé, qui demeure une potentialité pour le développement de l'âme. Les sens, à leur tour, en tant que partie médiane du tout, sont dans le pouvoir végétatif comme dans leur substrat, sur un mode indéterminé. Et ils sont dans l'intellect, sur un mode intellectif, comme une sensation qui a trouvé son accomplissement dans une intellection. L'intellect est à son tour dans les sens et dans la faculté végétative, comme dans son substrat, sur un mode indéterminé. En conclusion, de ce moment, l'intériorité réciproque des causes premières universelles ne semble pas pouvoir s'appliquer aux étangs physiques. Si l'eau est dans le tonneau n'est pas pour sa part dans l'eau. Le blé et le froment de l'agrégat ne sont pas l'un dans l'autre réciproquement. Dans le mélange formé par le vin et par l'eau, ces derniers ont disparu en tant que tels. Ils ne peuvent plus être l'un dans l'autre, à proprement parler. La proposition 11 du Liber de Chaosis pense un mode de relation irréductible à la physique aristotélicienne. L'intériorité réciproque de l'être, de la vie et de l'intelligence requiert la possibilité de penser simultanément l'intériorité réciproque des états d'une même entité à partir de points de vue différents. En soi, dans la cause, dans le causé, elle implique une conception corrélationnelle de l'être. La relation avec ce qui la précède et ce qui la suit est constitutive de l'identité de chaque cause. Et elle se démarque ainsi de la hiérarchie de Boès. À quelle tradition convient-il d'imputer la possibilité de penser la réciprocité dans la relation d'intériorité? Nous le voyons d'emblée. La source de cette proposition n'est pas théologique, au sens d'une adéquation à la révélation scripturaire, comme c'est le cas des pères grecs et latins. Il s'agit ici, pour penser la circoncision, il s'agit ici de théologie au sens néoplatonicien de l'articulation de l'un avec la procession des hypostases. La source qu'il est principalement possible d'identifier pour ce texte est la proposition 103 des éléments de théologie de Proclos, dont ce texte est la reprise littérale. Cette proposition trouve à son tour sa source dans la dixième sentence de Porphyre. Donc, le Liber de Chaosis permet à Albert de penser le problème gréco-latin de la circoncision des personnes divines et de son homologie avec la structure psychique à partir d'un transfert de la métaphysique gréco-arabe qui lui donne les outils pour penser la réciprocité de la relation d'intériorité, ce que ni Aristote ni Boès ne lui permettent adéquatement de concevoir. Mais Albert ne s'en tient pas à ce seul transfert. Comme il l'esquisse déjà à partir des modèles que lui fournissent Boès, il transfère ce qui vaut pour les premières causes universelles et pour l'âme à d'autres registres de l'expérience, la physique et la politique notamment. Par ce transfert, il cherche à penser l'intériorité réciproque du point de vue du mode de production qu'elle implique. Les instruments conceptuels gréco-arabes vont lui permettre de renouveler son exégèse de l'évangile de Jean. Depuis le début de ce parcours, j'ai soumis à la critique, à la suite d'Albert, les modèles d'intériorité réciproque issus des phénomènes créés. Le détour par le Liber de Chaosis permet de dégager une structure universelle qui sert d'homologie. C'est, d'un point de vue méthodologique, l'hypothèse qu'il s'agit, dans le modèle de la proposition 11, d'une structure universelle qui permet de passer d'un domaine de la réalité à l'autre. Autrement dit, il ne s'agit pas pour Albert de proposer des analogies entre ces différents domaines, mais de dégager cette structure. Nous mettrons en lumière, en conclusion, la raison qui rend possible cette méthode à mes yeux. Albert déplace, selon moi, la différence significative qui rend possible l'homologie. Cette différence ne passe plus désormais entre le divin et le créé, mais dans le divin lui-même, entre le productif et l'improductif. Je m'inspire pour cela des travaux de Pierre Kay. Troisième moment, intériorité réciproque et production. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jean 15, 4. L'immanence réciproque, décrite dans la métaphore joannique, apparaît irréductible aux significations de l'être dans déployé dans le quatrième livre de la physique. Être dans le cep, la vigne ou les sarments pour les uns et les autres, ce n'est pas y être seulement comme dans un lieu, comme la partie dans le tout ou inversement, comme l'espèce dans le genre ou inversement, comme la forme dans la matière. Ce n'est pas non plus former un agrégat ni un mélange. Sans un concept adéquat pour penser la manière dont les sarments sont dans la vigne et la vigne dans les sarments, le risque énoncé par l'évangile de Jean est qu'il n'y ait plus de fructification, que la production devienne stérile. Le commentaire albertien de ces versets se déploie d'abord comme un traité de botanique et de viticulture, techniquement extrêmement précis, puis comme un traité d'ecclésiologie, où ils, sans transition, ils sont juxtaposés. Dans ce traité d'ecclésiologie, il décrit l'unité du corps formée par le prélat et les fidèles. Albert propose de concevoir la production féconde de la vigne dans les fruits des sarments, comme fondée sur la circulation d'un flux de sève à partir du cep. Ce flux médiateur unifie toutes les parties en un tout. C'est une telle fonction qu'occupe aux yeux de l'évêque de Ratisbonne également l'épiscopat dans le corps ecclésial. Dans le sens du flux des causes ou de la procession, l'antérieur est dans le médian et dans le postérieur dans lesquels il se manifeste. Le Père dans le Fils dans l'unité de l'Esprit, le cep de vigne dans les sarments, par la circulation de la sève, le prélat dans les fidèles, par la communication de la grâce. Ainsi, l'antérieur se manifeste dans des effets ou fruits déterminés qu'il produit dans ce qui est postérieur. Dans le sens de la conversion, ce qui est postérieur demeure dans ce qui occupe la fonction médiane et antérieure, de telle sorte qu'il puisse y régénérer toujours les virtualités de son devenir. Ainsi, l'unité de ces totalités dynamiques est-elle caractérisée par leur réciprocité? Les fidèles demeurent également dans le prélat et les sarments dans la vigne. Maître Albert déploie par conséquent un modèle d'intériorité qui dépasse celui du tout potestatif qu'il reprend à Boès dans la mesure où la relation d'intériorité est réciproque et convertible. D'après le docteur Magnus, la caractéristique du tout potestatif est que le végétatif est dans l'intellectif qui le détermine, mais cette relation n'est pas convertible. À l'inverse ici, selon les termes joanniques, les sarments demeurent dans la vigne à l'état incoatif, plus précisément dans le cep où ils puissent puisent leur vigueur de croissance. C'est pourquoi il est possible d'affirmer ici qu'ayant paraphrasé le Liber de Gaosis, Albert l'utilise de manière implicite dans son exégèse de l'évangile de Jean pour rendre compte de la réciprocité de la relation d'intériorité. Ainsi, Albert reconduit-il à la fois la vigne et l'église, la viticulture et l'ecclésiologie à un même modèle d'intériorité réciproque comme paradigme logique de fonctions distinctes pour penser non seulement la nature mais aussi la politique ecclésiale comme des totalités dynamiques. Ce paradigme commun a une philosophie de la nature et une philosophie de l'esprit, rien de plus heureux ne m'est venu, je prends toute suggestion, consiste dans les éléments suivants. Premièrement, un principe de production unique, la circulation d'un pouvoir médiateur dans tous les membres de cette totalité, la conception de l'unité de cette totalité comme constituée d'éléments dont l'identité ne se limite pas à ce que chacun est substantiellement en lui-même, mais s'étend selon une corrélation constitutive de l'identité de chaque instance à ce qu'il est aussi dans sa cause et dans ses effets, sans pour autant produire un tout sans distinction. Une identité d'intériorité réciproque plutôt qu'une identité substantielle. L'effet du transfert de l'évangile de Jean dans les domaines de la nature et de la politique à partir du modèle inspiré du Liber de Gaosis est réciproque. D'un côté, l'homologie structurelle des champs trinitaires, viticoles et ecclésiologiques entraîne une universalisation et une naturalisation des propos joanniques. De l'autre, il serait possible de dire inversement qu'il s'agit d'une lecture de la réalité à partir d'une structure trinitaire. Néanmoins, n'oublions pas que ce n'est pas directement et explicitement les termes d'Augustin qui sont ici convoqués dans l'exégèse du 15e chapitre de l'Évangile de Jean. Les sources évangéliques, patristiques et néoplatoniciennes s'entre-interprètent. C'est pourquoi il convient de parler, me semble-t-il, d'une équivalence structurelle de ces domaines ramenés à un même paradigme d'intériorité réciproque, élaboré par Albert à partir d'un entrelacs herméneutique. En conclusion, en premier lieu, il résulte des propriétés de l'intériorité réciproque des causes universelles les unes dans les autres, telles qu'elles sont présentées dans le commentaire albertien du Liber de Gaosis, que celles-ci éclairent les structures de la totalité fructifiante décrite dans le 15e chapitre de l'Évangile de Jean, par une conceptualité philosophique qui universalise et naturalise le modèle joannique. Inversement, l'Évangile de Jean met à l'épreuve le modèle néoplatonicien en l'appliquant à d'autres domaines de la réalité que celui des causes premières universelles et de l'exemple des facultés de l'âme, auquel le traité anonyme se circonscrit. En deuxième lieu, il s'ensuit que le modèle gréco-hébraïque de l'Évangile joannique et la métaphysique gréco-arabe du néoplatonisme déployés dans le Liber de Gaosis font l'objet, dans la démarche albertienne, de transferts à double sens, d'un univers linguistique, philosophique, culturel et religieux à l'autre. Cette pratique de circulation herméneutique porte ses fruits. Elle permet de dépasser les apories catégoriales de la conception du lieu ou de la totalité à partir de la physique aristotélicienne et de la doctrine boétienne. En troisième lieu, du point de vue méthodologique, cette pratique de transfert culturel et épistémologique nous révèle la compréhension qu'Albert avait de sa pratique herméneutique comme archéologie. Elle nous montre bien que l'étude des problèmes philosophiques consiste pour lui, comme pour nous, à prendre en vue un phénomène complexe qui varie selon les corpora de textes commentés et les relations entretenues avec les autres disciplines. La translatio gréco-arabo-latine met en œuvre un détour complexe qui entrelace des langues, des cultures et des manières de penser différentes. Par elle, cette translatio traverse des domaines de la réalité distincts. Cette pratique archéologique peut nous inspirer des gestes herméneutiques quant aux défis lancés par Michel Serres, par exemple, à savoir l'urgence d'inventer des paradigmes philosophiques pour penser l'ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrés et le rapport au monde qu'elle implique. Ce que la pensée écologique appelle les objets-mondes, les hyper-objets, pose aujourd'hui le problème d'objets qui ne se laissent pas subsumer par les formes a priori de notre perception et les catégories de notre entendement, d'une part, et qui d'autre part présentent la propriété d'entretenir entre eux et nous des relations d'intériorité réciproques. C'est sur la base de cette homologie que j'ai proposé un parcours dans certains textes médiévaux. Ce que la théologie chrétienne a élaboré au sujet de l'évangile de Jean et de la relation d'intériorité réciproque des personnes divines interroge les limites des catégories aristotéliciennes. Une dialectique de la langue et de la pensée se met en œuvre. Les catégories de la langue grecque transposées dans les catégories de la pensée permettent de concevoir un certain rapport au monde que nous avons décrit à partir de la physique d'Aristote. En retour, le transfert de la métaphysique grecque à la théologie johannique, l'usage que l'évangile de Jean fait de la langue grecque exige à leur tour de modeler de nouveau les catégories de la pensée. L'homologie entre les fondements métaphysiques de la pensée écologique et l'exégèse médiévale s'appuie sur les deux propriétés des hyperobjets cités plus haut. Cependant, la pensée écologique contemporaine et la pensée médiévale ne se rapportent pas de la même manière à l'articulation entre épistémologie et métaphysique. Les hyperobjets et les objets-mondes remettent en question le corrélationnisme sujet-objet, selon lequel celui qui connaît constitue ce qu'il connaît et ne saurait jamais atteindre un en-soi de la réalité. Ils appellent à l'ère contemporaine un changement d'épistémologie. Tel n'est pas le cas de l'épistémologie médiévale. Elle continue de mettre en œuvre des catégories aristotéliciennes pour connaître le monde physique. La séparation entre les objets du monde médiéval et les propriétés des personnes divines indique que l'homologie entre l'intériorité réciproque de ces dernières et celle des hyperobjets rencontre une limite. Les personnes divines ne sont pas des objets, elles se distinguent par conséquent de ce que la pensée écologique définit comme objet, monde ou hyperobjet. Ceci demeure mesurable. Leur être est ultimement reconductible, selon Timothy Morton, à des quanta, même s'il n'est pas possible de déterminer la nature de leur être avant l'opération de mesure. Du point de vue de la pensée théologique, cette quantification de l'être ressortit à la logique de l'objet. S'ils sont des objets qui impliquent un changement d'échelle, qui dépassent nos capacités de les percevoir entièrement et les comprendre, au sens de les embrasser tout entier dans nos catégories de l'entendement, les hyperobjets n'en demeurent pas moins des objets appartenant au même monde que les sujets qui les visent noétiquement. Ils se distinguent par conséquent de ce que la théologie médiévale cherche à penser sous la notion de personne divine. Par la notion de personne, la pensée médiévale se déploie sur un autre terrain que celui de la recherche d'un en soi, de la logique de l'objet et de celle de la mesure. Il n'est pas question ici de faire la critique du caractère anthropomorphique de l'analogie qu'implique avec les humains la notion de personne divine. Je retiens dans le cadre de ce parcours seulement sa fonction. Ce qui nous concerne, le divin, n'est pas réductible à un objet, en quelque sens que cela soit, objet de connaissance ou hyper-objet. La notion de personne permet également de penser l'irréductibilité du divin, donc ça c'est pour le risque de réduction matérialiste et de corrélationnisme. Deuxièmement, cette notion éclaire l'articulation singulière effectuée par la pensée médiévale entre métaphysique et épistémologie. Une différence radicale soutient le rapport entre l'intériorité réciproque des personnes divines, non seulement avec les étants créés, mais en outre avec leur propre retrait par rapport à toute production, à toute formation d'une unitotalité, à toute appréhension noétique, ce qui distingue la pensée médiévale de la pensée écologique et par conséquent le recours ultime de la première à une énologie qui garantit la séparation entre le divin et le créé et entre l'essence des personnes divines et leur participation à la production, c'est-à-dire au fait qu'elles soient principes d'engendrement et de création. Tout n'est pas l'un dans l'autre, affirme la proposition 11 du Liber de Chaosis. Seuls certains principes métaphysiques universels le sont. Ils sont responsables de la production du monde en une totalité. L'un, pour sa part, n'est principe de rien et tient le système productif. Je dois cette interprétation aux recherches de Pierre Quay. L'un est la condition de ce système. Donc, la pensée médiévale n'est pas soumise à l'exigence de changer l'épistémologie pour penser l'intériorité réciproque de la cause et de l'effet. Cette propriété est certes contradictoire avec sa définition de la causalité et de la substance dans l'étude des étants physiques, comme elle peut l'être pour les sciences contemporaines. Mais l'intériorité réciproque se laisse lire sans contradiction à la lumière de la métaphysique gréco-arabe interprétée par le Liber de Chaosis. La pensée médiévale ne change donc pas d'épistémologie lorsqu'elle rencontre des phénomènes d'intériorité réciproque, parce qu'elle se donne les moyens de recourir à plusieurs régimes de discours et de conceptualité. C'est donc la différence énologique qu'elle suppose entre l'improductif et le productif en Dieu qui permet à la pensée médiévale de ne pas réduire ce qu'elle vise à un en soi, un objet ultimement mesurable ou constituable par le sujet connaissant, d'un côté. De l'autre, c'est la différence énologique qui permet à la pensée médiévale l'audace d'homologie entre le divin et le créé, parce que leur différence est entre les différents domaines du créé, parce que leur différence radicale se situe ailleurs. C'est l'improductivité de l'essence divine ou de l'un qui sauvegarde la possibilité de l'homologie. Effectuer ces homologies entre le divin et le créé consiste à repérer dans l'intériorité réciproque des personnes divines une structure générale. La pensée médiévale découvre cette structure dans des phénomènes du monde et la transfère du divin vers le créé, notamment dans les champs de la production ou de l'organisation d'une totalité politique. ou ecclésiale. Il s'agit de modes d'existence différents. J'utilise ici l'expression mode d'existence que j'emprunte à Étienne Souriot et Bruno Latour pour éviter, et seulement comme cela, sans reprendre leur réflexion, pour éviter de qualifier et de distinguer trop rapidement des domaines qui s'avèrent ensuite difficiles à réarticuler. La pensée médiévale élabore des moyens de passer de l'un à l'autre à partir de l'homologie constituée par l'intériorité réciproque. La conceptualité issue de la proposition 11 du Liber de Causis sert en quelque sorte de langage diplomatique pour passer d'un mode d'existence à l'autre en évitant de les comparer. J'entends ici diplomatie, terme de nouveau emprunté à Latour, au sens d'une procédure de mise en relation de domaines différents effectuée par une médiation et ou un médiateur ou une médiatrice qui possède une connaissance précise des deux domaines et soit en mesure d'établir entre eux une communication. Albert ne construit pas un système complexe d'analogie entre le monde physique auquel s'appliquent les catégories aristotéliciennes, le domaine psychique dont la description recourt plutôt au modèle augustinien de la péricorèse, le domaine politique ou celui de la production. Il propose une homologie, un modèle théorique dont la fonction est de passer d'un mode d'existence à l'autre. Albert répond au problème du changement d'échelle et de mode d'existence posé par l'intériorité réciproque des personnes divines par rapport aux propriétés des états créés, par ce que je pourrais appeler une homologie à fonction diplomatique entre différents modes d'existence. Ce geste épistémique pourrait être utile à l'invention d'une métaphysique attentive au monde présent. Sommes-nous dès lors philosophiquement aussi dépourvus qu'il le semble pour penser notre relation à la biosphère, par exemple? C'est ce que l'on pourrait déduire des courants anthropologiques qui réhabilitent des modes de pensée où apparaît l'intériorité réciproque. Ces modes de pensée ont été rejetés par la modernité, celle-ci les a considérés comme les fruits d'une mentalité primitive, prélogique et par suite faisant obstacle à la pensée scientifique. S'agit-il d'importer tel quel de tels modes de pensée, de nous les approprier, ou bien de penser des modalités d'intériorité réciproque à partir de notre propre configuration culturelle? Un anthropologue comme Philippe Descola, qui a étudié des peuples dits primitifs, en a déduit plusieurs anthropologies possibles. La caractérisation qu'il propose de la pensée occidentale semble incompatible avec l'intériorité réciproque. La pensée occidentale qu'il modélise à partir de l'analogisme et du naturalisme aurait à ses yeux constitué son concept d'identité sur la séparation entre ce que nous avons de commun avec les étants non humains, à savoir la nature au sens de corps, d'un côté, et de l'autre, ce qui nous en distingue, à savoir la raison. L'animisme, quant à lui, inverse ce rapport. Ce que nous avons de commun avec les êtres non humains est la conscience. Ce qui nous distingue est le corps, ou plutôt la forme qu'il prend dans ces différentes métamorphoses possibles. Selon un mode de pensée animiste, en tant que tous constitués par la conscience, nous sommes les uns dans les autres, de telle sorte que cette relation d'immanence réciproque fasse quotidiennement l'objet de rites. Comment supporter en effet le fait de manger une autre conscience, pareille à la mienne, lorsque j'ingère une plante ou un animal? Il en résulte, aux yeux de Descola, que la capacité de penser les humains comme partie intégrante du tout naturel auquel nous appartenons et qui nous constitue réciproquement, a des modes de pensée fondamentalement structurés selon une répartition des critères d'intériorité et d'extériorité, de physicalité et de conscience, de nature et de culture différents des nôtres. Mais toute la pensée occidentale se réduit-elle à la schématisation des courants de pensée dominants que décrit Philippe Descola? Il semble que la philosophie médiévale soit en mesure de faire émerger de nouveau au sein de notre tradition des modes de pensée alternatifs susceptibles peut-être de fournir d'autres paradigmes pour penser les problèmes contemporains. Ces modes de pensée doivent-ils être aussitôt condamnés comme rémanence d'un archaïsme qui aurait subsisté dans la pensée médiévale? Ou bien sont-ils plutôt la trace de manières de s'approcher de certains phénomènes qui n'ont pas attiré l'attention de façon prépondérante par rapport à l'attraction exercée par d'autres phénomènes sur lesquels s'est concentrée la modernité? Si tel est le cas, il semblerait que la pensée médiévale offre des paradigmes théoriques élaborés au sein de la culture occidentale susceptibles d'entrer en dialogue avec des modes de pensée qui lui soient étrangers et ainsi de nous fournir des procédures pour passer d'une échelle à une autre, d'un mode d'existence à un autre. Il semblerait qu'elle puisse se montrer méthodologiquement heuristique et féconde pour inventer une métaphysique susceptible de répondre à notre rapport au monde. Il semble qu'elle nous permette de nous rendre attentifs à partir de procédures rationnelles de vérification de nos démarches à ce qu'engage l'option du réductionnisme matérialiste, celle de la fuite dans l'irrationnel, celle de l'import tel quel dans un élan décolonisateur de modèles anthropologiques empruntées à d'autres civilisations. Elles pourraient nous permettre ainsi, en puisant dans notre propre tradition, en collaborant avec d'autres disciplines, avec d'autres sciences, d'exercer notre responsabilité pour le temps présent, d'imaginer d'autres manières d'habiter le monde que l'affrontement duel des deux géants de la rixe au gourdin. Ceux-ci n'accordent aucune attention au monde dans lequel ils sont, bien qu'ils soient peu à peu engloutis en lui. Ils ne sont pas en lui comme le monde ne semble pas être en eux, au sens où ils ne semblent pas les constituer dans la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes. Il me semble que la pensée médiévale est en mesure de proposer quelques outils conceptuels, quelques procédures méthodologiques qui nous permettent d'inventer aujourd'hui notre propre manière d'habiter notre monde et de nous rendre attentifs à lui. Merci de votre attention.
Merci beaucoup pour cette proposition. Je vous propose peut-être de prendre une ou deux minutes de réflexion pour peut-être laisser retomber la poussière du duel. Voilà, et puis quand l'un ou l'autre sera prêt à poser une question, à rentrer en dialogue, en débat, votre question sera la bienvenue.
Il ne s'agit pas pour la création d'être seulement une apparitio dei, mais il y a une sorte de schizophrénie écartienne. Il n'y a pas de création. Il y a un flux de la nature divine qui est identique tant que réside dans cette reduplication, juste en tant que juste, non pas homme juste, parole juste, acte juste, juste en tant que juste, nous sommes comme le Fils et par rapport au Père. Cette logique formelle n'est pas, à la manière de Dan Scott, une logique purement, une univocité de l'être, qui ne fait que refléter, à mon sens, les catégories de la pensée, mais elle est fondée sur une conception incandescente de l'être, une conception de l'être en acte, enfin, être juste, la justice donne à tout ce qui est juste en tant que juste son être juste. Donc il y a une sorte de production, en fait, une production de justice à travers le terme concret, juste en tant que juste. Mais, et c'est là que je parlais de schizophrénie, il faut rendre compte du multiple. Et ce multiple, c'est le débordement. Donc, pour l'instant, nous sommes... donne tout ce que... tout l'être juste que possède le juste, sans aucune différence. Mais en tant que c'est un acte juste, en tant que c'est un homme juste, nous entrons dans un autre mode de production. Le premier mode de production s'appelle une bullition, comme à l'intérieur de l'être trinitaire. Produit un acte, un homme, donc un substrat individuel, ressorti à l'ébullition, c'est-à-dire l'être divin, déborde de sa plénitude close, enfin totalisante, et ce débordement est une déperdition, c'est l'apparition de la matière, mais elle est très réelle. Maître Eckhart écrit dans ses prologues très explicitement « Je ne veux en aucun cas priver les causes secondes, donc c'est de leur être et de leur puissance d'agir, bien qu'elles reçoivent tout leur être de Dieu, toute leur sagesse de Dieu, toute leur... création, ce mode de production qui est une ébullition, une sortie de l'être divin, et donc qui est un autre mode de manifestation du principe, n'est pas une apparition seulement. Elle est très réelle. Et elle se superpose. voilà, une superbose à suture chez Maître Eckhart. Je lis Albert de la même façon, même si d'autres textes vont très clairement du côté d'une analogie thomasienne, enfin, reprise après, voilà. Alors, simplement, je rebondis sur ta remarque. Donc, la première triade est, à tes yeux, hiérarchique. Et alors, je m'interrogeais. Évidemment, ça pose des... Il me semble qu'elle ne l'est pas dans le Liber de Causis. Mais, voilà, c'est... position aimante cela, c'est-à-dire que l'un est absolument ineffable, inconnaissable, et il est maintenu, mais précisément, on n'en parle pas. Il apparaît dans deux propositions qui marquent un hors-cadre, et on parle de la production. Bon. Alors, où se situerait le passage entre cette triade néoplatonicienne hiérarchique à l'interprétation du Liber de Causis comme les universels sont les uns dans les autres à égalité, alors que, alors là, éclairage logique, mais du point de vue, enfin c'est, point de vue de leur extension, il ne me semble pas que l'être, l'universalité de l'être soit aussi universelle que celle de l'intelligence ou de la vie. Voilà, donc ça c'est ma question. Comment pouvons-nous avoir une égalité si l'extension... Et deuxièmement, la question est historique. Comment se fait le passage ?
Moi, ma connaissance de terrain, ce sont les manuscrits médiévaux exégétiques. Je n'ai aucune connaissance écologique, donc je vous accorde tout d'emblée, mais quand même, je vais tenter d'argumenter. Donc, Timothy Morton donne quelques exemples comme ça, comme comment penser le plastique ? C'est à la fois un continent repérable par satellite, fluant dans les océans, et c'est un ensemble de constituants de notre propre corps désormais. Comment penser cette viscosité, cette perméabilité de certains éléments qui sont à la fois extérieurs, intérieurs, qui vont durer beaucoup plus longtemps que nous et nous constituent en même temps, donc nous font passer d'échelles spatiales et temporelles distinctes, voilà, pour reprendre ces caractéristiques, et sont en intériorité extérieure, voilà, donc viscosité spatio-temporelle et intériorité réciproque. Donc sur cet exemple, je me suis dit, voilà, comment penser cela, lui, dans sa démarche? Et alors, le seul apport des outils et des paradigmes, des outils conceptuels et des paradigmes de métaphysique de l'exégèse médiévale, peut seulement de nous garder de certains dérapages de la pensée écologique. Donc, voilà, non pas comme science, mais... Donc, là, en particulier, avec tout le brio d'un... Vous voyez, qui c'est Timothy Morton? C'est une sorte de pop star, un professeur aux États-Unis qui introduit les expositions sur Björk, etc. Et avec une sorte de brio incroyable, finit par nous dire, mais voilà, pour penser le plastique qui est en vous et en même temps qui vous dépasse infiniment, qui va durer spatialement et temporellement, en fait, il faut en venir à une ultime réalité qui est les quanta. Voilà. Alors, la série de passages, c'est d'abord très rapide, très brillant, et puis on ferme le livre et on se dit, bah oui, finalement, la métaphysique, c'est terminé. Vous voyez, j'ai des champs de combat. Voilà, la métaphysique est terminée et on va tous faire de l'épistémologie. Et en fait, les scientifiques interrogés d'abord sont étonnés des descriptions proposées par Timothy Morton et me demandent, mais comment se fait-il que nous qui ne savons pas déterminer la réalité, ce qu'est la réalité avant de la mesurer et donc de la déterminer, comment se fait-il qu'elle est cela, cet exemple même est utilisé comme fondement d'une nouvelle métaphysique. Voilà, donc peut-être très humblement, le passage, enfin le fait que Albert Legrand se bat pour comprendre l'intériorité réciproque de personnes divines, donc, dont j'ai dit les seuls ressemblants qu'elles ont avec ces hyper-objets, elles ne sont pas des objets, mais c'est ce dépassement intellectif et sensitif et l'intériorité réciproque, pour comprendre cela, finalement, on peut se parler d'un sens de l'être qui explique beaucoup de nos régimes de discours, de la manière dont nous rapportons au divin, au créé, aux différents types de créé, et on a des procédures pour passer de l'un à l'autre, beaucoup plus précises que d'invoquer certains quanta. Je me permets juste d'utiliser de nouveau Albert pour dire voilà ce que propose Quentin Meillassoux avec la critique du corrélationnisme sujet-objet en référant à Badiou, même si c'est pour dire qu'en fait il s'agit d'un principe de contingence. Et donc, on ne peut plus parler de rien, même plus faire de science, puisque c'est un hasard que notre science fonctionne. Enfin, c'est une contingence inexpliquée que notre discours fonctionne. Il me semble que là, nous sommes embarqués par la force de critique, ici, du corrélationnisme sujet-objet, dans des domaines où il n'est plus possible de vérifier. On n'est plus du tout dans une métaphysique rationnel, si tout est contingent, comment se fait-il qu'on puisse encore parler si on n'interprète pas de fonction kantienne, une fonction critique du corrélationnisme, et qu'on dit non, vraiment, en fait, il se réfère au mathématisme universel de Badiou. On a là, me semble-t-il, avec Albert, les moyens de dire, mais comment se fait, qui dit que la loi mathématique est une loi, qu'elle est universelle? Qui le dit? Eh bien, un sujet qui constitue son objet, et non pas une structure universelle, indépendante de nous, une archée. Voilà. Ou à Quentin Meillassoux, citer trois exemples de métaphysique, c'est pas du tout de l'écologie, je me garderai bien, je ne travaille avec aucun agriculteur, avec aucun scientifique qui mesure la pollution à l'échelle planétaire. Enfin, et j'ai de l'expérience pour lire des métaphysiques contemporaines, enfin, qui sont des discours très dominants, très influents, et qui en fait ne passent peut-être pas nécessairement, enfin il faudrait discuter d'abord avec eux et après très précisément leur argument, ne passe peut-être pas nécessairement l'examen ou la grille, enfin le crible d'une rigueur de type aristotélicienne et autres, telle que Albert la pratique. Voilà, donc c'est juste, c'est très humble en fait, c'est juste, oui je ne sais pas bien ce qu'Albert propose pour penser le réchauffement climatique ou l'écologie, sûrement rien du tout en fait, mais pour regarder, pour prendre un temps de réflexion archéologique, une sorte de boîte noire où on prendrait du recul sur les procédures rationnelles qu'on est en train de mettre en œuvre pour se rapporter à ces objets, oui, là, je pense qu'ils peuvent nous apporter. Logiquement, l'intériorité, là, il me semble que le fait d'être l'un dans l'autre réciproquement, donc que l'extérieur devienne l'intérieur, c'est le nomobus que l'extérieur devienne, voilà, c'est l'intérieur, c'est-à-dire que l'essence de l'âme se manifeste dans ses actes, ses facultés, et voilà, l'un dans l'autre, l'intérieur nourrit l'extérieur. Il en est de même pour le Père et le Fils. Le Fils fait les œuvres du Père. Cette productivité-là. Alors, il me semble que d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue métaphysique ou logique, ça se définit comme une constitution réciproque, relationnelle, c'est-à-dire que l'être du Père est dans le Fils signifie que donc, c'est un même être qui circule, c'est pas simplement dynamique, qu'il y a une possibilité de manifestation et de virtualité, mais je pense que l'idée, c'est d'échapper à actif-passif, à cette dichotomie. Mais il n'y arrive pas bien, parce qu'évidemment, il faut penser l'activité de l'engendrant et la passivité de l'engendré. Donc, il retourne en disant, mais bien sûr, il n'y a pas de père sans fils. Donc, le fils est père du... Bon, l'hérésie commence à brûler, donc tout le monde retire toutes ses billes du débat. Mais ils ont tenté... là, je parle de Maître Eckhart, dans la tillage d'Albert, de penser ce rapport de manifestation, qui est un rapport pas simplement d'apparence, enfin, mais d'engendrement. Il y a de la production, mais sans actif et passif. Voilà leur problème. Sans hiérarchie. Voilà leur objet. Mais ça ne fait pas monde, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, je pense que la constitution d'un monde, et je pense... je suis en train de réfléchir à cause de la proposition de Pirquet de voir ça comme éventuellement la production d'une unitotalité. Je pense que ça n'est même pas une unitotalité. Il me semble que ce modèle de bullition, de production interne, n'est pas fait pour faire système. Que ce qu'il cherche à penser, c'est une consolidation d'un système. Mais voilà, ce sont, à mon avis, les deux pensées limites, en fait. Une production sans actif et passif, et... Une production, mais on n'est pas dans la production, évidemment, dans production technique, une production sans formation d'un système ou d'une totalité. Bon, mais là, il faut encore approfondir. Et du coup, je n'ai pas du tout qualifié l'intériorité. Parce qu'il n'y a ni intérieur, à mon avis, il n'y a ni intérieur. Je retire tout. La pensée médiévale n'aide en rien l'écologie. Ça ne fait pas monde. Voilà. Je vais vous chanter du Boris Vian, hein. Je vais reprendre tout ça. D'ailleurs, vous voyez, par rapport à ces questions récurrentes de notre temps, je ne sais pas s'il est moderne ou postmoderne, et celle du corrélationnisme, et donc le sujet, enfin de l'articulation du sujet d'objet, il n'y aurait que d'objets que pour un sujet, réciproquement. Et on ne peut pas sortir, à partir des principes métaphysiques, de cette relation en vue d'atteindre un en-soi. Il me semble que les personnes divines, et à partir de l'intériorité réciproque, le modèle de vision paulinienne que, surtout Maître Eckhart, imbrique, donc dans l'intériorité du Père et du Fils, oui, mais finalement, le Père et le Fils se voient l'un l'autre. Je verrai comme je serai vu. Il imbrique les deux. Et il dit, oui, ils se voient l'un l'autre. Et je vois dans le principe divin tout et tout me voit à travers lui. De telle sorte que, me semble-t-il, on n'est plus dans le corrélationnisme. Parce qu'en fait, le problème du corrélationnisme, c'est... la hiérarchie, c'est l'actif et le passif. Là, il y a de nouveau une tentative de penser à la lisière de nos possibilités binaires. Tout est à la fois simultanément actif et passif, de relations qui sont multiples. Et c'est universel. je vois tout et tout me voit, et pourtant je reste un jeu. Ce n'est pas sa voix en moi, en fait. Enfin, c'est aussi sa voix en moi, mais il n'empêche que je dis, je vois. Donc voilà, il me semble que là, avec ces modèles-là, on est porté à quand même à des hors-cadres de la pensée, de la manière dont nous posons certains problèmes actuellement. Alors moi, je réside beaucoup à la participation. La deuxième question. J'entends vraiment très bien ce que vous me dites sur tous les modes d'approche d'un autre vivant, d'un autre mode vivant comme monde. C'est avec le monde que vous réinjectez de l'intériorité. Et vous dites de la participation. Mais vous dites, je l'entends à partir de l'empathie. Et alors là, évidemment... Voilà. Alors là, je me dis, bon, d'une certaine manière, je sens mes résistances tomber complètement, puisque, en fait, je me dis, en fait, il lit la participation à partir de Wittgenstein, donc je suis tranquille. Voilà. Non, mais juste... Je ne me... général de la participation, mais là, l'orientation de la question... l'orientation de la question... Non, mais... L'orientation de la question est phénoménologique et donc, très bien, c'est absolument pas la direction ici que prend Albert, parce que sinon, pourquoi est-ce que je résiste à la participation? Parce qu'il me semble que, évidemment, Albert est un partisan de l'analogie, de la participation, Alain Libéral a montré magistralement, mais par ce texte exégétique, je découvre un tout autre Albert. Où, on va faire des similitudes de proportionnalité pour arriver à penser que les qualités de Dieu par rapport à Dieu sont métaphoriquement, parce que ce n'est plus du tout une identité ni même une égalité mathématique, les qualités d'un phénomène créé par rapport à ce phénomène créé, mais les procédures d'analogie qu'il construit deviennent folles. Elles deviennent folles sous deux pressions. Denis, la théologie négative, qui est donc l'un, qui dit il y a une sorte de brûlure, tu ne peux pas la dépasser. Et c'est cette séparation entre... le langage brûle à un moment. On ne peut pas dire, en fait. C'est la séparation de l'énologie et de l'être et de ses manières de se dire. Le deuxième motif pour lequel ces techniques exégétiques de construction d'analogie deviennent folles, c'est Al-Ghazel et toute la théorie, les réinterprétations d'Aristote et des théories du rêve. Puisque Albert reprend les règles d'interprétation des rêves établies par Aristote et ses commentateurs arabes, donc on va regarder les images des rêves en les rapportant à leur cause, à ce dont elles sont signes, donc en général la cosmologie, et puis il y a des images de rêves dont les associations dépassent notre prudence, comme dit Aristote, et c'est là qu'on fait l'hypothèse de rêves prémonitoires qui sont inspirés par des médiations angéliques, c'est-à-dire intellectives, qui transmettent l'unité du rayon divin à notre imagination, qui le déploie en une multitude d'associations. Voilà. Et à partir de là, l'exégèse d'Albert fonctionne explicitement comme une multiplication des analogies, et supposant des participations, évidemment, parce que l'analogie, c'est de dire « je prédique être à Dieu » ou « bonté » ou « sagesse » comme je le prédique aux créatures, en supposant que les créatures participent une forme que Dieu est éminemment. Bon. Et Albert, là, dans cette pratique exégétique, que j'appelle devenue folle, dit explicitement, il faut multiplier les approches du mystère divin, eucharistique, de tous les aspects possibles, faisant ainsi exploser l'analogie, parce qu'il n'y a aucune forme de ce dont je vais vous donner l'exemple. parce que ce qui compte, ce n'est pas la participation à une forme, parce que Albert critique cette participation. À cause de Denis, les créatures ne participent pas, l'être ou la bonté divine sont radicalement distincts. Mais il y a des manières de construire des rapprochements, des associations entre les images de rêve, entre les étants créés, qui permettent des homologies que je vais décrire comme ça. Enfin, je vais vous donner des exemples. L'Eucharistie, par exemple, est figurée par l'agneau pascal, non pas comme une substance à une substance, qui nous permettrait de dire finalement les catégories humaines correspondent aux catégories du réel, parce que l'agneau pascal est une substance qui participe à la catégorie de substance de Jésus, Dieu, sur la croix. Mais il ne l'est, cet agneau pascal, figure de l'Eucharistie, qu'en tant qu'il est mangé par le peuple en vue de la production de la libération. De la même façon, et voilà comment fonctionnent les figures. Autrement dit, moi, je ne remets pas du tout en cause toute l'interprétation magistrale d'Alain Libera sur les catégories. Cependant, ce que Albert fait en exégèse, c'est de se libérer de cette métaphysique de la substance et donc de l'analogie de substance pour s'interroger une logique des relations et des aspects. Voilà. On mange en communauté en vue d'un certain effet, à savoir la libération, que ça ressemble à un phénomène divin. Donc c'est ce qui ressemble, ce sont des actes, des relations, des propriétés, aucune substance. Et donc aucune... Je pense que ce n'est pas à partir d'une théorie de la participation, mais je pense que vous l'entendiez complètement différemment. Pour venir sur votre terrain, moi je n'ai pas lu de texte empathique. J'ai lu beaucoup de textes de botanique, de descriptions incroyables des animaux qu'Albert, en particulier des oiseaux qu'il allait observer très précisément, etc. Mais c'est jamais sur le mode de l'empathie entre des mondes, comme vous dites. Ah, moi, je ne l'ai pas vu, mais peut-être c'est mon ignorance, en fait. Je vais chercher, votre question va aiguiser mon regard, je vais chercher ces